Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de l'AFMSH, que je représente ici, puisque je suis le vice-président de cette institution, je suis très heureux d'ouvrir ce qu'on appelle maintenant un cycle, je crois, un nouveau cycle. En tout cas, je suis très content d'accueillir le ministère de la Culture en votre personne, Isabelle Clave, pour... je suppose, parler de cette collection qui, je crois, existe depuis 83. Donc c'est sans doute une des plus belles réussites, je crois, hein, des éditions de la FNSH, à mes yeux, mais je dis ça de façon personnelle, hein, je n'engage personne. Cette collection est celle de la bibliothèque allemande, que vous connaissez peut-être, sont sans doute les très belles collections de la maison, à la fois par la qualité des livres en eux-mêmes, hein, et des auteurs, et puis par l'ancienneté, le suivi de cette affaire. Et donc, ça donne une panoplie de l'ethnologie en France française, mais pas seulement. Hein, c'est une France très élargie. Hein, et je sais que j'ai pas mal de collègues à moi, d'ethnologue, puisque je suis anthropologue ou ethnologue, et donc qui ont publié dans cette collection. Il y en a un que je ne peux pas ne pas évoquer, si vous voulez, puisqu'il a dirigé pas mal d'ouvrages qui portaient sur le patrimoine, très précisément, et Dieu sait s'il y a eu quand même, je ne sais pas, 6 ou 7 livres, hein, et celui-ci qui va être présenté aujourd'hui porte sur le patrimoine, c'est Daniel Fabre, hein, que je connaissais bien et qui a été quelqu'un qui a beaucoup contribué, hein, à la collection et surtout à la question patrimoniale en France, dans cette collection. Voilà, donc si vous voulez, à la fois moi, comment dirais-je, j'ai connu cette collection comme lecteur, quand j'étais pas à la FMSH, donc je la connaissais par certains des auteurs amis que j'ai lus, et puis la continuité de cette affaire, et puis surtout un lien très fort avec le ministère de la Culture. Il y a quelqu'un aussi que je connaissais bien, mais que j'ai pas vu depuis longtemps, qui a participé à tout ça, c'est Alain Morel.
Oui.
Qui était aussi, un vieux copain, mais un vieux copain que je n'ai pas vu depuis longtemps. Il est à la retraite, évidemment.
Oui,
Alain Morel est à la retraite, mais je sais qu'il a beaucoup contribué à tout ça.
Oui, voilà. Voilà. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Monsieur le Président.
Voilà.
Vous avez raison, ça fait 36 ans qu'on chemine côte à côte entre ministère de la Culture et Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme autour de cette collection Ethnologie de la France. Elle a été créée en 1983, très exactement, avec un premier volume qui est sorti en 1984, avec une initiative prise par Christine Langlois au sein de la mission du patrimoine ethnologique. Vous parliez d'Alain Morel, effectivement, c'était deux chevilles ouvrières de cette mission. On était à l'époque de toute jeune création du Conseil du patrimoine ethnologique, sous la présidence d'Isaac Kiva, qui a beaucoup fait, évidemment, pour l'installation de l'ethnologie de la France au ministère de la Culture.
Il y avait Gérard
Altab. Et pas seulement l'ethnologie de la France, mais de façon concomitante, depuis le rapport que Soustelle avait soumis en 1975, c'était en fait la volonté de développer deux disciplines, archéologie et ethnologie, d'ailleurs, dans la recherche française, de façon significative, et la création, comme la revue Terrain, d'ailleurs, de cette collection Ethnologie de la France s'inscrivait dans ce socle historique, dans cette volonté historique. Et les deux, Terrain comme Ethnologie de la France, avaient pour vocation de pouvoir très vite restituer à la communauté scientifique les données de la recherche, les avancées de la recherche qui étaient soutenues par les appels à projets lancés 2 ans plus tôt, en 81, par le ministère de la Culture sur des crédits recherche dans des domaines d'ethnologie qui dépassait la question patrimoniale qui va nous intéresser pour ce cycle-là, qui était extrêmement varié dans leur panorama thématique, géographique, disciplinaire, leurs questionnements, les rapports ethnologie et société. Je voudrais simplement vous donner quelques-uns de ces thèmes qui illustrent les premières années d'existence de la collection. Famille et parenté, savoir naturaliste populaire, qui a donné lieu à un ouvrage qui est un des tout premiers de la collection, savoir-faire et techniques menacées, ethnologie en milieu urbain, appartenance régionale et identité culturelle, pratiques rituelles dans la France contemporaine, France société pluriethnique, les consommations familiales, les paysages frontières culturelles, les pratiques et les politiques culturelles de l'identité, paraître, les jeux du paraître, les nouveaux usages de la campagne et du patrimoine, production, producteurs et enjeux contemporains de l'histoire locale, ethnologie de la relation esthétique, forme contemporaine de l'économie informelle autour des activités, des échanges et des réseaux, et les rapports de cohabitation et les usages des espaces communs dans les ensembles résidentiels. Voilà un peu les premiers thèmes de cette collection qui s'ouvrait au tout début des années 80. Et effectivement, il s'agissait, dans le contexte de la création de cette mission, dans la création de ce conseil, de valoriser le plus rapidement possible les données de la recherche dans un champ qui venait de se créer, qui était le champ du patrimoine ethnologique, qui sous-tendait tous les travaux en ethnologie, en anthropologie, qui étaient ainsi encadrés par cette politique ministérielle. Et puis la collection s'est vite subdivisée en deux composantes, ethnologie de la France d'un côté et cahier d'ethnologie de la France, en distinguant le statut des publications qu'elle accueillait, d'une part des études monographiques qui présentaient le résultat de recherches de terrain susceptibles de répondre à la fois à ces avancées disciplinaires dont je parlais, mais aussi de pouvoir convaincre et attirer vers la discipline ethnographique un public aussi amateur large, un public de curieux, un public d'amateurs d'ethnologie, pas forcément de spécialistes de la discipline. Et c'est encore une vocation de la collection aujourd'hui de pouvoir toucher des cibles diversifiées, plurielles, de lectorat, et pas simplement effectivement des chercheurs académiques ou ses pairs, mais aussi un public amateur. Ça, c'est une volonté très forte de cette collection.
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de journalistes, enfin de papiers, dans des journaux à propos de cette collection.
Exactement, oui. Elle a une capacité, de prise et de visibilité dans des secteurs de lectorat qui ne sont pas forcément des secteurs uniquement académiques. On l'a vu encore avec certains derniers numéros. Le dernier ouvrage de Jeanne Teboul, par exemple, qui n'est pas présenté dans ce cycle-là, parce qu'il n'est pas spécifiquement lié au patrimoine, mais il a été effectivement recensé dans des revues totalement extérieures au domaine strict de la recherche académique. Ce qui est une valeur très intéressante, évidemment, pour une collection de cet ordre. Et puis l'autre composante de la collection, ce sont ces cahiers d'ethnologie de la France qui avait pour vocation de publier, comme l'ouvrage d'ailleurs qui est présenté ce soir, des ouvrages collectifs, des actes de séminaires, de colloques, proposant la synthèse d'un programme de recherche et une approche à plusieurs voix d'une thématique donnée. Ces deux composantes avaient pour objectif commun de publier donc des études sur la France, hexagonale ou ultramarine, dès l'origine d'ailleurs. On a eu très vite des ouvrages sur les Kanaks, par exemple, sur la culture Kanak, sous la plume d'Alban Mensah, et de constituer, de forger et de démontrer un terrain ethnographique de premier intérêt, celui qui était l'ethnologie du proche, qu'elle va continuer ensuite à explorer dans les années qui suivent. Avec Sylvie Sagne, présidente de l'ethnopôle Garae à Carcassonne et chargée de recherche CNRS au LAIC, avec laquelle j'ai la chance d'assurer la co-responsabilité de cette édition depuis 2017 maintenant, et avec les membres du comité de lecture de la collection, dont quelques-uns sont présents là ce soir, on a fait le choix, il y a maintenant 2 ans, de revenir au principe d'origine, c'est-à-dire de revenir à une collection unique et de lui donner un nouveau titre. Donc cette collection unique Ethnologie de la France, et de l'élargir à un titre Ethnologie de la France et des mondes contemporains pour valoriser et officialiser en réalité ce qui était le fait des ouvrages déjà accueillis dans la collection, c'est-à-dire une ouverture comparative ou complémentaire à des champs géographiques qui en réalité étaient déjà extérieurs aux strictes frontières de l'Hexagone ou des Outre-mer. Aussi parce que l'évolution de la discipline nous incitait naturellement à ne pas rester dans ces frontières nationales, pour ainsi dire, qui étaient celles affichées par les premiers temps de la collection. Mais la singularité de la collection, elle reste la même, c'est-à-dire un ancrage privilégié dans l'ethnologie, mais pas que. On le verra avec certains des actes et des ouvrages collectifs qui sont présentés dans ce cycle 2019, et refléter aussi une évolution de la discipline dans un monde plus global, un monde mondialisé aujourd'hui, naturellement, qui amène nécessairement à appréhender la société contemporaine avec des points de vue qui ne sont pas que des points de vue depuis le sol hexagonal ou ultramarin. Et puis aussi d'élargir les aspects envisagés, politiques, sociétaux, ethniques, culturels, religieux, où évidemment l'élargissement géographique est une dimension absolument indispensable et nécessaire pour s'accorder avec l'évolution générale de la discipline et ne pas se crisper sur des ancrages ou des objets géographiques trop étroitement circonscrits. On a cependant en fil rouge, dans ces quelques 36 années de publication éditoriale, malgré tout, trois lignes de force thématiques qui émergent, malgré ce panorama thématique très large que j'évoquais en vous donnant les premiers noms des appels à projets. D'abord, c'est évidemment le champ culturel au sens large. Le deuxième, c'est le champ du patrimoine, d'où l'objet du cycle 2019. Champ du patrimoine matériel au début et immatériel depuis quelques années. Une des soirées sera consacrée d'ailleurs au thème de cette ouverture avec la Convention de l'UNESCO vers l'immatériel. Et puis la troisième dimension thématique qu'on revoit aussi en fil rouge dans les différents ouvrages de cette collection, c'est la question de la francophonie qui apparaît aussi depuis les années 80 de façon régulière dans la collection. Quand j'évoque ces trois thèmes-là, c'est évidemment aussi, et c'est un des thèmes, et notamment le thème de la soirée de ce soir, les politiques et les fabriques qui sont là derrière et les coulisses d'élaboration de ces thématiques culture, patrimoine et francophonie. Pas simplement les objets, mais aussi la façon dont ils sont fabriqués et quels sont les acteurs politiques, sociétaux qui les construisent. Pour valoriser la collection, ministère de la Culture et FMSH avaient déjà envisagé en 2016 un premier moment. C'était une journée qui avait eu lieu dans l'immeuble Le France de la FMSH fin novembre en 2016 et qui était une journée d'exposition et de vente d'ouvrages accueillant une douzaine d'auteurs qui avaient été rassemblés autour de trois thématiques. De mémoire, c'était le vivre ensemble, les métiers et puis le patrimoine déjà. Et c'est autour de cette thématique du patrimoine que la FMSH nous a proposé de consacrer tout ce cycle d'intervention 2019 avec une échelle un petit peu plus ambitieuse qui est liée aussi à la nouvelle convention cadre pluriannuelle qui nous lie depuis l'année dernière, ministère et fondation, avec plusieurs volets, un volet évidemment d'élaboration des numéros, mais aussi de diffusion et de valorisation conjointe de la collection. Également le patrimoine, parce que le champ évidemment a semblé aux deux institutions particulièrement d'actualité, et parce que, vous le soulignez, plusieurs ouvrages de la collection, et notamment parmi les plus récents, sont consacrés à ce thème-là. En réalité, la première fois que le thème du patrimoine apparaît dans la collection, c'est 6 ou 7 ans après sa création, c'est avec l'ouvrage qui a été dirigé par Pierre-Yves Jeudy. C'était en 1990, c'était le résultat d'un séminaire de philosophie qui avait été publié sous le thème « Patrimoines en folie ». Ce cycle 2019, naturellement, ne valorisera pas tous les ouvrages de la collection consacrés au patrimoine, ni tous les ouvrages de la collection en général. Il y en a 65 qui ont été publiés depuis 1984, mais autour d'un certain nombre de thématiques, 8 en tout, de ce soir au mois de juin, puis au mois de juillet, puis du mois de septembre au mois de décembre, par exemple autour de des relations nature-patrimoine, autour de l'immigration et du patrimoine, autour de la fabrique du patrimoine, autour du vandalisme, autour des sciences du numérique et du patrimoine, on valorisera dans la collection 9 ouvrages. Le premier, c'est Vers patrimoine. Vous les avez derrière sur la fresque derrière nous. Vers patrimoine qui a été publié en 1994, la constitution d'un nouveau domaine patrimonial. On a choisi de mettre en exergue aussi un ouvrage paru en 2000 qui s'appelait Campagne de tous nos désirs, patrimoine et nouveaux usages sociaux. Limites floues, frontières vives. Des variations culturelles en France et en Europe, paru en 2001. Les hommes de devoir, les compagnons du Tour de France, un ouvrage de Nicolas Adel, paru en 2008, La fabrique du patrimoine de la cathédrale à la petite cuillère, paru en 2009, Les monuments sont habités, vous évoquiez Daniel Fabre à l'instant, paru en 2010, Le patrimoine culturel immatériel, enjeu d'une nouvelle catégorie, sous la direction de Chiara Bortolotto, paru en 2011, L'immigration aux frontières du patrimoine, paru sous la double direction de Marina Choliac et de Noël Barbe, qui est sorti en 2014, Le tournant patrimonial en 2016, et le dernier, ce soir, sous la direction de Jean-Louis Tornator, Le patrimoine comme expérience, implication anthropologique. Le souhait aussi, avec Pascal Rouleau qui dirige les publications ici à la FMSH, ça a été de ne pas non plus rester dans un entre-soi éditorial qui serait celui de la collection, mais de provoquer des débats, des échanges avec des auteurs publiés dans d'autres contextes éditoriaux ici à la Fondation. Et donc, de rendez-vous en rendez-vous, de soirée en soirée, on aura dans les tables rondes des auteurs de la collection Ethnologie de la France, mais aussi des auteurs extérieurs à la collection volontairement pour créer ces ponts et ces occasions de dialogue et pour démontrer qu'évidemment, la question patrimoniale investit aujourd'hui plusieurs collections ici à la Fondation, comme évidemment, vous le savez bien, elle investit aussi la plupart des infrastructures de projet aujourd'hui dans les domaines des SHS de façon extrêmement élargie de nos jours. Et de fait, à travers cette question patrimoniale, on a choisi, et ces huit moments, c'est ce qu'on a choisi de démontrer, c'est-à-dire non pas une question figée, qui serait arrêtée à la date des ouvrages qu'on a choisi de valoriser, mais en ayant fait ces choix, de démontrer aussi un patrimoine en mouvement, à travers quelques thèmes et quelques axes qui vont nous orienter un peu ces tables rondes et le choix de ces ouvrages, qui est la notion évidemment d'éclatement de cette question patrimoniale entre les années 80 qu'a vu naître cette collection et nos jours. En particulier, l'éclatement des modalités de désignation du patrimoine, en particulier l'accroissement de la place du patrimoine dans les politiques territoriales et dans la vie médiatique, la multiplication aussi des supports à l'ancrage du fait patrimonial, la diversification des effets de la patrimonialisation, que l'on questionne les politiques publiques, les groupes sociaux, les infrastructures de recherche et de projet qui sont celles qui aujourd'hui existent en France et en Europe. Et puis aussi, et on est particulièrement concerné à la fois à la Fondation du MSH et puis au ministère de la Culture, l'éclatement des frontières disciplinaires qui étaient traditionnellement intéressées par la question patrimoniale, avec un élargissement qui, partant de l'histoire de l'ethnologie et de l'anthropologie, s'est élargi aujourd'hui non seulement à la quasi-totalité des sciences humaines et sociales, mais aussi à une partie des sciences expérimentales, notamment dans des infrastructures de projet qui, aujourd'hui, mettent en avant et questionnent les sciences du patrimoine en mêlant à la fois des chercheurs académiques et des professionnels du patrimoine. Donc c'est tout ce mouvement qui va caractériser et cette dynamique, cette actualité, naturellement, qui va caractériser ces tables rondes, ces huit tables rondes de l'année 2019. Je ne pourrais pas terminer cette présentation sans évidemment énoncer un certain nombre de remerciements pour les collègues qui ont pu contribuer à l'élaboration de cette année. C'est derrière la présentation de ce soir, mais les sept qui vont suivre, un travail logistique important qui a été réalisé. Je voudrais évidemment associer et parler non seulement avec Sylvie Stein, mais aussi au nom des 10 membres du comité de lecture de notre collection, qui ont participé et qui participent aussi activement à sa promotion, à sa valorisation et à sa visibilité, à l'extérieur aussi des champs stricts de l'Académie. Je voudrais associer aussi à ces remerciements pour la fabrication de la collection elle-même, Laurent Bruel, qui est là ce soir, secrétaire de rédaction de cette collection et cheville ouvrière de la réalisation de chacun des ouvrages. Dorine Bertrand, aussi au département de la politique de la recherche également, et qui, elle, chargée de communication et iconographe, participe, comme ici les collègues de la Fondation, à la diffusion des numéros. Annie Carnot, ingénieure d'études au laïc, qui est notre relectrice scientifique de chaque ouvrage. Et puis, côté FMSH, en particulier, le secrétaire général, Nicolas Cazzaras, ici à la Fondation, Pascal Rouleau, le responsable des publications avec lequel on travaille étroitement et formidablement depuis son arrivée. On est arrivés pratiquement en même temps tous les deux. On a d'abord créé cette convention et puis eu cette volonté de relancer la valorisation de la collection aussi auprès d'un public plus large. Et puis plus concrètement, pour la réalisation de ces soirées, en particulier de ces 8 soirées, Chloé Lopard pour la conception et la réalisation de tous ces supports de communication, et Corinne Le Carrère, par laquelle je terminerai pour aussi dire que l'idée vient de Corinne Le Carrère, l'idée de ce cycle 2019, et je l'en remercie énormément. Non seulement l'idée, mais aussi la mise en œuvre et toute la logistique qui a suivi pour permettre l'existence même de tous ces moments de convivialité autour de la collection Ethnologie de la France en 2019 jusqu'au mois de décembre prochain. Merci beaucoup à tous.
On laisse la place
aux auteurs de ce soir, sous la direction de Jean-Louis Tornator, qui vont présenter le dernier paru de la collection.